Bonjour Cyril Payen.
Bonjour.
Vous avez été l'un des rares journalistes occidentaux présents à Kaboul lors de la prise de pouvoir des talibans. Vous y avez passé au total 12 jours. Vous venez tout juste de rentrer en France. D'abord, dans quelles conditions avez-vous pu quitter le pays ?
On a choisi la voie terrestre puisqu'il n'y a plus du tout de voie aérienne.
Mais vous le saviez en décidant de rester, ça ? Que le retour serait un peu compliqué.
On savait qu'il n'y avait pas de retour. Ouais. On savait qu'on prenait une décision et ça fait partie de ces décisions dans des carrières où on vit à la fois quelque chose d'historique et en même temps on veut le couvrir évidemment. En même temps, c'est un saut dans l'inconnu puisque le 31 quand les Américains partent, c'est d'ailleurs 48 heures avant quand le compte à rebours vraiment s'est engagé, on voyait bien que c'était la fin qui commençait à arriver, les talibans qui commençaient vraiment à prendre possession de la ville, il y a un vrai questionnement, surtout que le problème n'était pas nécessairement la question des talibans que je commençais un peu à je voyais bien la manière dont ils essayaient de communiquer cette fameuse offensive de charme, ces talibans 2.0. Les éléments de langage, on les connaît, mais il y avait surtout le groupe État islamique qui s'était rappelé au bon souvenir de cette rivalité avec les talibans qui avait multiplié les attentats. Et le 31, on ne sait pas si tout va pas basculer, que les alliés d'hier se veulent devenir les ennemis de demain. Et on va se retrouver dans l'État islamique comme en Syrie, où là on sera des cibles et où les talibans qui nous protègent ne vont plus du tout nous protéger. Ouais. Donc c'était une question à se poser.
Ouais. Donc vous partez par la route et un retour assez compliqué, notamment à la frontière pakistanaise.
Effectivement, c'est du côté taliban. Finalement, on avait pris des mesures de sécurité importantes avec mon équipe afghane. On est parti de nuit, on était très cachés, tout avait été coordonné. On passe Jalalabad, qui est un foyer du groupe État islamique. Là aussi, il faut faire extrêmement attention, mais ça s'est bien passé. Effectivement, on tombe, je vous parle d'il y a quelques heures, enfin il y a deux jours, le moment où les Pakistanais à la frontière, où on passe la frontière, où on va aller dans les zones tribales pakistanaises, un resserrement, un tour de vis très très brutal des autorités militaires pakistanaises, et qui là m'interdisent de rentrer alors que tout était normalement prévu. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est plein de surprises et souvent de mauvaises surprises. Et c'est assez miraculeux que j'ai fini par passer et d'être à Islamabad le soir et être avec vous ce matin, ce dont je me réjouis par ailleurs.
Un petit mot avant d'évoquer ce que vous avez perçu, comment les Afghans vivent les événements. Un petit mot sur cette actualité. Aujourd'hui, on nous dit que le bastion de la résistance aux talibans, la vallée du Panjshir, serait tombé. Ce sont des informations qui circulent, qui ne sont pas totalement vérifiées pour l'instant. Si elles se confirmaient, est-ce que ça serait un changement profond ?
Je crois que la vallée du Panjshir, elle est éminemment symbolique, elle est presque proverbiale, puisque ça fait des siècles que c'est un foyer de résistance important, incarné plus récemment par le commandant Massoud, c'est son fils qui maintient la résistance, mais on n'est plus du tout dans la même configuration géopolitique, logistique et militaire. Donc c'est-à-dire que c'est important, mais c'est purement symbolique. D'ailleurs, les talibans ne s'en cachent pas, ils mènent une offensive, mais ils négocient en même temps, ils nous l'ont dit, et qu'on voyait bien que c'était pas si important. Sur le plan de la symbolique, oui, et d'ailleurs, c'est surtout une guerre de communication, puisque les talibans, quand j'y étais, avaient tiré en l'air toute la nuit pour fêter la chute de la vallée du Panjshir, ce qui n'était pas vrai. Aujourd'hui, il y a 1000 rumeurs, il n'y a aucun témoin. On dit que Ahmad Massoud, le fils Massoud, donc le meneur de la résistance, est mort, blessé, il a fui au Tadjikistan. Aujourd'hui, il dit qu'il veut bien cesser le feu. Il y a aussi des négociations. Tout ça est un peu périphérique, si vous voulez, par rapport à ce qu'a été la vallée du Panjshir avant. Ce qui est certain, c'est que la sécurisation de l'Afghanistan, la souveraineté absolue sur l'Afghanistan des talibans, ça, c'est leur priorité. Et que la vallée du Panjshir, au même titre que cette guerre d'influence qu'il y a entre les durs, les proches du groupe État islamique, entre le Pakistan, le Qatar, il y a un théâtre d'ombre extrêmement dangereux qui est en train de se passer en ce moment, et que les risques de guerre civile sont là, et que tout n'est pas joué. Et la meilleure preuve, c'est que la formation du gouvernement n'arrive pas. Le gouvernement devait être annoncé vendredi dernier. Il ne l'est pas. On pense qu'ils vont attendre la date anniversaire, si j'ose dire, du 11 septembre pour l'annoncer, mais rien n'est moins sûr. On vit des moments extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que la vallée du Panjshir, c'est important, mais c'est très symbolique aujourd'hui de ce théâtre d'ombre et de l'enjeu très très important qui se passe en Afghanistan.
Alors à Kaboul, vous étiez à l'hôtel, et dans cet hôtel, il y avait des talibans qui y avaient également élu domicile. Vous vous êtes retrouvé à les côtoyer au buffet de l'hôtel. C'est pas banal tout de même.
Mais c'est le Serena Hotel qui est connu. C'est un très bel hôtel, mais on l'avait rebaptisé le Taliban Inn parce que on était avec des talibans en permanence.
Mais alors qui sont-ils ? Ce sont des jeunes gens pour la plupart.
Oui,
à qui avez-vous l'impression d'avoir à faire? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir rencontré des fanatiques religieux ou finalement des espèces de mercenaires? Qui sont-ils?
Je dirais pas des mercenaires, parce que le nationalisme pachtoune des talibans est quand même très profond.
Quand je disais mercenaires, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans une cause, mais sans forcément avoir une idéologie très forte.
Oui, je pense que sur la... En tout cas pour l'instant, et en ce qui concerne les étrangers, et nous étions faciles à contrôler, puisque je rappelle qu'on était moins de 10 en ville, donc c'était pas très compliqué de savoir où on était. Le commandement, le haut commandement taliban avait décidé de jouer la carte de l'ouverture, de nous sécuriser. Donc cet hôtel, oui, était sécurisé de A à Z avec les talibans. Ces jeunes gens, notamment des forces spéciales qu'on a vues, qui sont très bien équipées, déjeunaient à côté de nous, les rares journalistes présents. Et il y avait, je dirais pas une bonne entente, mais ils ont appris par exemple le selfie, puisqu'ils utilisaient mon téléphone qui était un peu mieux que le leur pour faire des selfies. Donc il y avait, oui, une sorte de camaraderie sur le terrain. Après, ça ne, je pense pas qu'ils aient fondamentalement changé. Ouais. Pourquoi l'auraient-ils?
Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette espèce d'opération de séduction? Quel but poursuivaient-ils par là?
Je pense que les talibans savent qu'on n'est pas en 96. Ouais. Ils ont changé. Que la population afghane, même s'ils ne la respectent pas, parce qu'ils ont les armes, ils ont chassé les Américains, cette population, elle a été émancipée, éduquée, elle était très analphabète en 96. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Donc, ils jouent avec ça, et puis ils ont une énorme pression des pouvoirs régionaux. Je rappelle qu'en 96, il n'y avait que 3 pays qui les avaient reconnus. Là, le regard de l'étranger est complètement différent. Et d'ailleurs, les chancelleries occidentales sont très attentistes, mais ne rejettent pas en bloc. Mais les Chinois, les Russes, on a vu, les Iraniens, tous les alliés traditionnels se sont jetés pour saluer l'arrivée des talibans comme finalement la fin de la corruption, la fin de la guerre et la paix retrouvée. C'est le jour de l'indépendance. Donc ils jouent un jeu assez assez intéressant. Il faudrait quand même pas non plus rentrer dans le cliché et faire attention, parce que s'il n'y a pas les talibans, ça sera des gens beaucoup plus durs, ça sera le retour des seigneurs de guerre. Et donc ils sont sous influence des Qataris, des Pakistanais certes, mais pour le destin des Afghans, des millions d'Afghans, je pense qu'il faudrait quand même s'attarder un petit peu sur ce qu'ils sont devenus et voir un peu ce qu'ils proposent.
Dans quel état d'esprit sont les Afghans que vous avez rencontrés? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont tétanisés? Ou est-ce qu'ils croient peut-être que ces talibans ne seront pas les mêmes que ceux d'il y a 20 ans?
Non, personne n'y croit, très honnêtement, puisqu'ils sont traumatisés par la période 96, notamment évidemment les femmes, les minorités, c'est extrêmement compliqué, ils n'y croient pas. Alors il y a la stupéfaction au départ de voir cette armée, cette débandade extraordinaire, les Américains qui partent sans emmener tout le monde, et au moment du départ des Américains, la population notamment de Kaboul et les alentours où j'allais s'est repliée sur elle-même, ne parlait plus. La peur s'est installée, et puis les pénuries, parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a pas d'argent. Donc c'est un problème pour les ménages. Et les milliers de collaborateurs qui ont travaillé avec les organisations étrangères se terrent, se cachent.
Ou avec
et les autres
journalistes.
Ou des journalistes.
Vous avez vécu ça, laisser derrière vous les gens qui ont travaillé avec vous. Ça, c'est un déchirement, j'imagine.
Ah bah c'est quelque chose de très compliqué. Je souhaite à personne d'avoir des équipiers qui vous font confiance. C'est parce que vous représentez une nation souveraine qui a fait des promesses, qui ne
vous
tient pas ses promesses.
Vous avez l'impression que la France n'est pas à la hauteur?
Écoutez, ça sera certainement un déshonneur, comme dans d'autres conflits, si on ne fait pas marche arrière et qu'on n'est pas, on n'essaye pas en tout cas de sortir ceux qui en attendent beaucoup. Et à titre personnel, il est très compliqué, effectivement, d'incarner ce pays et de laisser 2 personnes, plus leur famille, je parle de Kayoum et Hamid, mes coéquipiers, c'est 16 personnes et qui sont restées derrière moi quand j'ai passé la frontière. Ça, c'est très très compliqué à vivre.
Merci Cyril Payen.
Merci à vous.
Merci, bonne journée.